Succession les trois sagesses par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, première conférence du 10 septembre 1994.
On m'a dit hier que beaucoup dans le fond n'entendaient pas grand-chose. Alors je vous demande de ne pas hésiter de dire, puisque je ne peux absolument pas le constater. Si vous commenciez à chahuter, alors je dirais, bon, elles n'entendent rien. Mais je ne vois pas le chahut. Alors, et je ne l'entends pas non plus. Je crois qu'il faut avoir cette simplicité, puisque on ne vient pas toujours ici. Il faut forcément trouver un peu le moyen que vous puissiez écouter, parce que autrement ça ne sert pas à grand chose. Donc n'hésitez pas de le dire, j'ai prévenu pour que celui qui essaie, mais il faut l'aider, il y a une coopération là aussi. Je reviens un instant sur ce point de vue de la philosophie. Je crois très important aujourd'hui comme formation de notre intelligence dans une recherche de la vérité. Le Saint-Père a dit nettement dans l'encyclique Splendor Veritatis qu'on est en présence d'une crise de la vérité. Or, on ne peut répondre à cette crise de la vérité qu'en essayant de former notre intelligence pour qu'elle comprenne ce que c'est que la vérité. La réponse de la foi ne suffit pas, parce qu'on est devant un monde qui n'est plus entièrement croyant, dont la majorité n'est plus croyante. On est des minorités. Il faut bien se dire ça. Alors ça doit augmenter en nous le désir d'être de vrais témoins de la vérité. Pour être des témoins du Christ. Jésus dit qu'il est témoin de la vérité et qu'il est venu pour cela en face de Pilate. C'est-à-dire en face d'un monde qui n'est pas croyant. plus où est sa source. Alors là, n'oubliez jamais la définition de Peggy de la philosophie. Parce qu'elle est très bonne. Il faut toujours y revenir. Peggy dit, la plupart des hommes descendent le fleuve. Même les cadavres. Et les cadavres descendent plus vite que les autres. Les hommes ne cherchent pas la vérité et cherchent uniquement ce que tous les hommes font. C'est-à-dire qu'on se met à la mode. Descendre le fleuve. Parce que tout le monde descend le fleuve. Le philosophe remonte à la source. C'est la source qu'on cherche. Et il faut accepter alors d'être seul à remonter à la source. L'opinion des hommes, c'est secondaire. On doit remonter à la source. Et Peggy ajoute, remonter à la source, il faut accepter d'être seul. Et avoir dans son cœur une conviction suffisamment nette et forte pour savoir que c'est cette recherche de la vérité. Et tant qu'on n'a pas découvert la source, Dieu. Non, l'intelligence le peut. Les théologiens du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, appellent cela les préambula fidei. Les préambula, c'est-à-dire tout ce qui est normalement nécessaire pour que la foi puisse s'épanouir parfaitement. Et les préambula fidei, c'est que mon intelligence humaine s'est mise à la recherche de l'être premier et découvre la nécessité de découvrir cet être premier. Que mon intelligence humaine découvre l'existence d'une âme spirituelle créée par Dieu. Ça fait partie des préambula fidei. Autrement dit, au Moyen-Âge, on comprend qu'on est parfaitement croyant que lorsqu'on a découvert le domaine propre de la foi, et que la foi n'empiète pas sur ce que mon intelligence humaine peut dire. Lorsque je ne peux pas, parce que je n'ai pas le temps, et que mon intelligence humaine en est incapable, en raison de ma paresse, en raison du contexte dans lequel je me trouve. C'est vrai, en raison du contexte dans lequel j'ai vécu. Si j'ai vécu et j'ai été éduqué dans un contexte positiviste, scientiste, j'ai beaucoup de peine à en sortir. J'ai beaucoup de peine. Je n'arrive pas à en sortir. Alors, la foi peut remplacer cela. Parce que Dieu est infiniment miséricordieux. Alors, il vient au-devant de nous. Mais normalement, nous devons comprendre que nous devons nous aussi aller au-devant de Dieu. Parce que si Dieu est Dieu, si Dieu est mon créateur, c'est quand même un peu poli d'aller au-devant de lui. Si je suis capable, lève-toi, va au-devant de celui qui est ton Seigneur. Et la philosophie, c'est de nous apprendre d'être poli pour Dieu. D'aller au-devant de lui, autant qu'on le peut. Pas dans des nostalgies affectives, romantiques, mais en toute vérité, avec le bâton du pèlerin, et du pèlerin qui cherche Dieu, et qui veut aller au-devant de lui. Alors ça donne à la philosophie toute sa dignité de sagesse. Parce que la philosophie n'est sagesse que lorsqu'elle découvre l'existence de Dieu. Autrement, elle dégringole, je dis bien, dans une anthropologie. Depuis Kant, la philosophie se déclare uniquement capable d'une anthropologie. Et aujourd'hui, cette anthropologie kantienne est tombée dans l'abîme psychologique de l'anthropologie. Vous voyez la dégradation successive. Et alors on ne sait plus du tout ce que c'est que la personne humaine, uniquement au point de vue psychologique. On ne voit plus du tout quelle est la finalité de l'homme. Parce que dans l'anthropologie ancienne, on ne sait plus ce que c'est que la vraie finalité de l'homme. On ne voit plus que la finalité de l'homme, c'est aimer l'homme d'un amour d'amitié. Et aimer plus encore que l'amour d'amitié, la recherche de la vérité. Vous savez, cette parole qu'on devrait graver, hein, dans notre cœur, dans notre intelligence, parole magnifique d'Aristote dans l'Éthique. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est la parole d'un vrai philosophe. Il sait qu'il y a un amour d'amitié. Platon est digne d'un amour d'amitié, parce qu'il est grand, il est génial. C'est un très grand artiste de la pensée, Platon. C'est un artiste de la pensée. Et il sait ce que représente cette grandeur de la plus vraiment découvrir l'être premier que nous appelons Dieu, notre Créateur. Alors on a un ontologiste de droite, Descartes, Hegel, et un ontologiste de gauche, Marx. Et toutes les idéologies athées sont des ontologistes de gauche. Et on est en présence de cela aujourd'hui. Alors, beaucoup de théologiens optent pour Hegel, l'ontologiste de droite, et ne voient pas que l'ontologiste de droite a donné naissance à l'athéisme de gauche. Donc, on continue de maintenir l'athéisme de gauche. Sans en avoir conscience. Donc on n'est pas coupable, si vous voulez, mais on tombe dans la grande bêtise. Parce que tout le monde le fait. C'est très important de saisir l'enjeu d'aujourd'hui, au point de vue profond. On est en présence de cela. Les idéologies de gauche sont nées d'un hegelianisme mal compris. Pas commode de bien comprendre Hegel, hein, parce qu'il est génial, mais s'il est faux, il est luthérien. Et l'erreur de Luther, c'est de croire que mon intelligence ne peut être éveillée que par la foi, et que dans la foi. Et dans la foi, mon intelligence se ressuscite, mais mon intelligence a été blessée à mort par les conséquences du péché originel. Et donc mon intelligence est incapable par elle-même, sans la foi, d'atteindre l'existence de Dieu. Alors je distingue plus le domaine de la foi et le domaine de la raison. Et au bout d'un certain temps, je me mets à la place de Dieu. Et je dis la foi, c'est inutile. C'est mon intelligence qui, par sa dialectique, s'est parfaitement réveillée et elle s'identifie à l'intelligence de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Il y a quelques années, c'est pas vieux, un certain nombre de théologiens ont regroupé une table ronde de théologiens catholiques, de théologiens protestants, pour réfléchir sur le problème du philosophe face à l'existence de Dieu. J'étais encore à Fribourg, donc ça fait qu'il y a sûrement 15 ans de ça. Et comme c'était ce problème-là que je devais surtout regarder au plan philosophique, j'ai essayé de voir ce que ces philosophes et ces théologiens disaient. Parce que pratiquement ils étaient que des théologiens. Et tous ont dit, depuis Kant, il n'y a plus de preuves valables pour rechercher l'existence de Dieu. on a considéré ces voix de saint Thomas d'Aquin comme des voix métaphysiques. Parce qu'on ne savait plus du tout ce que c'était que la métaphysique. Alors on s'appuyait là-dessus. Et ça, c'est important de comprendre que le problème philosophique d'aujourd'hui, le problème numéro un, c'est de découvrir comment mon intelligence humaine peut remonter jusqu'à Dieu. Et nous devons redécouvrir ces voies. Et nous ne pouvons, je crois, les redécouvrir que si, en philosophie première, en métaphysique, on découvre ce qu'est la personne humaine. Et c'est par la personne humaine vue d'une façon philosophique, métaphysique, que nous pouvons remonter jusqu'à Dieu. Nous le verrons, parce que c'est le problème de l'année. Et je crois ça capital. Si on fait de la philosophie, c'est pour ça. Alors vous avez la bonne fortune providentielle de commencer la philosophie par son sommet. Vous savez, quelquefois, on aime de monter très haut en montagne pour voir le lever de soleil. Hein? Tous les bons scouts routiers ont fait ça. Et c'est la finalité du scoutisme. On est le plus haut qu'on peut voir le lever. besoin pour ceux qui ne croient pas. J'en ai besoin pour parler le langage des hommes. J'en ai besoin pour rester proche des hommes. Être un témoin de ce que Dieu me donne directement. Par la révélation, Dieu me parle. Par la révélation, Dieu me dit ce qu'il est. Par la révélation, je suis conduit à découvrir le mystère de Jésus. Dieu fait homme, l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est plus le petit caillou de l'Ancien Testament. Ou avant l'Ancien Testament, il y a quelque chose d'infiniment plus grand. C'est plus seulement la parole, c'est une personne. Et c'est Dieu personnellement qui vient vers moi. Alors là, j'entre par la foi dans une nouvelle connaissance de Dieu, toute différente. Mais c'est encore une vérité d'un type particulier, puisque c'est une vérité de foi. Tant que je suis ici sur la terre, je ne vois pas Dieu, mais je peux lui parler, je peux entendre sa parole, je peux le découvrir comme celui qui est mon Père. Déjà au plan philosophique, je découvre que Dieu est le Père de mon intelligence, mais là je découvre que Dieu est le Père moi-même, et quand en tant que père, il m'introduit dans tous ses secrets, il me révèle ses secrets, il me les donne, parce que son grand secret, c'est qu'il a un fils bien-aimé, et ce fils, il me le donne par l'incarnation. Plus par les gestes que par la parole. Saint-Esprit, vous avez oublié la langue des saints. Alors on va l'inventer, nous. C'est très curieux, ça. Il faut essayer de comprendre tout ça, parce que ça fait partie de notre climat. Il ne faut pas simplement le regarder. Il faut le constater. C'est la petite Marthe, je vous ai déjà dit ça. C'est tellement merveilleux. Parce qu'elle était, elle avait l'intelligence bien plus fine que les théologiens. Elle avait l'intelligence d'une petite enfant de Dieu. Mais elle avait la parole d'une petite paysanne. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Et quand on répétait ce que Marthe disait, même si on était théologien, Marthe disait, pardon, ce n'est pas ça.
Parce que les charismes ont un peu...
hébreu. Il a parlé grec. Il a parlé latin. Il s'est arrêté longtemps sur le latin. Non mutor, je ne change pas. Et puis ces derniers temps, il parle toutes les langues. Et je crois qu'il peut très bien parler aussi ce langage charismatique. C'est possible. Alors il donne un certain, une intelligence à d'autres pas. C'est possible, j'en sais rien, puisque je ne l'ai pas, moi. Pourquoi le Saint-Esprit fait ça? Pour montrer que la grâce ne détruit pas la nature. Et que la grâce permet à l'homme d'être plus homme que s'il était sans la grâce. Que la grâce chrétienne donne un renouveau à l'homme. Non pas un renouveau qui lui permet de retourner dans le paradis terrestre, mais donne à l'homme un renouveau pour permettre à l'homme d'être plus homme. Qu'on soit américain, qu'on soit hollandais, qu'on soit suisse, qu'on soit espagnol, c'est curieux. La grâce nous fait plus français, espagnol, anglais. C'est extraordinaire, ça. La grâce touche notre personne et notre individualité. Et l'Esprit Saint se sert de notre langue. Il n'a rien contre l'allemand, il n'a rien contre l'anglais, il n'a rien contre l'espagnol, il n'a rien contre le français. C'est extraordinaire. Il y a une théologie en langue vulgaire. Je me souviens, c'est pas la théologie, c'était la philosophie. Mais on enseignait, quand j'arrivais à Fribourg, en 45, on enseignait la philosophie en latin. Alors, au Solchoir, où j'avais fait mes études chez les Dominicains, on enseignait toute la théologie, toute la philosophie dans la langue française. Et là, on m'a obligé d'enseigner la philosophie en langue vulgaire, en latin. Alors, quand on prononce le latin à la manière française, un Américain ne comprend rien. Non seulement parce que c'est le latin, mais c'est la prononciation. Et ainsi de suite. Interrogez mes étudiants. Les étudiants disent oui, on comprend, mais pourquoi vous ne faites pas votre cours en français? Parce que de temps en temps, c'est des petites diversions en langue française. C'est interdit. Alors, j'ai eu cette réponse du doyen de la faculté. Non, il vaut mieux la liturgie en langue vulgaire, mais que les cours restent en latin. Alors j'ai dit ça, je comprends pas. Non, puisque les cours, c'est pour les étudiants qu'on les fait, et non pas pour la gloire du latin. C'est pour les étudiants qu'on les fait. Si les étudiants comprennent mal le latin, ne comprennent plus le latin, mais c'est à nous, par miséricorde, de faire des cours en langue vulgaire. voyez que